on est dans quelque chose qui est porté par à Paris 8 dès le début par l'équipe de Paris 8. On a ici le privilège d'avoir Guy Berger qui est de ce point de vue-là qui inscrit, vous voyez, ces questions-là du côté des interrogations sur le système, l'éducation, tout ça, et qui était le compère de Jacques Arduano, dont on va reparler après aussi, et qui est l'enseignement qui est délivré se déclare très clairement. Je me rappelle le titre du DEA, c'est approche multiréférentielle de l'éducation. Donc cette question, la multiréférentialité, elle est intrinsèque au département de sciences de l'éducation tel qu'il est, avant qu'il y ait deux équipes qui vont se dessiner à partir des années 2000, certaines se revendiquant une multiréférentialité et d'autres étant beaucoup plus réservées par rapport à et revenant vers les disciplines. Donc sur cette question-là, on peut voir qu'il y a un passage entre une multiréférentialité assez classique issue de la psychosociologie, etc. C'est-à-dire que si on prend par exemple le dictionnaire, le vocabulaire de la psychosociologie coordonné par Dubos et tout ça, on trouve classiquement des disciplines articulées, ça a été fait beaucoup par des personnes comme De Gaulle, Jacques et d'autres, Eugène Henriquez, etc., d'articuler sociologie et psychologie, psychanalyse. Mais là, on va voir qu'avec l'approche transversale, enfin, on l'a déjà vu, hein, l'approche transversale, il y a une ouverture à d'autres, vous voyez, à d'autres cultures. La question, j'étais assez surpris en relisant pour aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, l'introduction à la recherche-action, de voir que la question épistémologie du Sud apparaît dans la recherche-action, dans le livre La recherche-action de 1994. Donc c'est quand même assez intéressant. J'invite à faire part des interrogations que vous avez, notamment du côté des approches interculturelles, etc. Alors, qui veut faire part de... Alors, c'est pas automatiquement des témoignages, ça peut être aussi des interrogations, des doutes, des critiques, hein. Il ne s'agit pas de... on n'est pas uniquement en disant « oui, c'est bien », etc. Il faut aussi montrer des limites, des critiques sur ce type d'approche. Alors, qui a eu l'occasion de mettre ça en œuvre, d'être marqué par ça ou des interrogations? N'hésitez pas. Hein, parce qu'ici, on a fait exprès de ne pas avoir d'intervention formelle pour pouvoir que se mélangent des questionnements, des apports, etc. Donc, il n'y a pas un monopole de la... de la parole, de la connaissance. Ici, il y a des personnes qui n'ont jamais ni lu ni entendu parler de René Barbier avant, etc. D'autres, évidemment, oui. Bon, donc que tout ça puisse se mettre en avant. Alors, qui veut commencer pour lancer le débat? Oui. Alors, je te présente en même temps.
Je suis différent. J'ai un doctorat. Je suis Luigi Flora, j'ai fait un doctorat à l'Université Paris 8 au laboratoire Experis et aujourd'hui je suis chercheur associé du labo et puis je suis conseiller principal dans deux organisations institutionnelles à Montréal qui sont l'une dans une faculté de médecine et l'autre dans un centre de recherche hospitalier. Et par rapport à la multiréférentialité et surtout à l'interculturalité, j'essaye de faire passer l'idée qui n'est pas facile à rentrer. Donc, je travaille beaucoup avec tous les professionnels de santé à Montréal, dans l'enseignement, les milieux de soins et la recherche, parce qu'on a vraiment une approche systémique de la complémentarité des savoirs expérientiels des patients avec ceux des professionnels de santé. Et on a un cours, par exemple, sur plusieurs années, là, le cours de collaboration interprofessionnelle en partenariat avec le patient. Et en fait, quand on écoute les gens de ces différentes professions de la santé, et quand on voit la pédagogie de ces différentes facultés, etc., etc., il y a vraiment un problème interculturel qu'ils ont du mal à dépasser, que nous, on arrive à dépasser, en fait, en insérant dans les dispositifs pédagogiques des patients. Parce que les patients, de base, ils sont considérés comme des profanes, et que les différentes cultures, ils ne les comprennent pas. Et donc, l'expérience interculturelle dans le monde professionnel est un vrai sujet, à mon sens. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est dans ce domaine-là, mais il y a vraiment ça. Et une des manières de bouger ça, c'est justement la recherche-action, en fait. Qu'elle soit en pédagogie ou dans les milieux de soins. Et c'est un... Pour moi, tout ce qui a été dit ce matin, même si moi j'ai rencontré René Barbic à une seule occasion, c'était une conférence autour de l'approche du sensible, donc une approche dans laquelle il y a eu plusieurs thèses à Hespéris également. Mais puis après j'ai lu ce qu'a écrit René Barbier sur la recherche-action. Mais un des moyens de bouger l'institution, et aujourd'hui moi mon expérience c'est de la bouger par l'extérieur, l'épistémologie presque du sud, quoi. Il y a ces sujets se croisent là. Donc moi je travaille complètement là-dedans, même sans connaître vraiment, sans avoir connu vraiment le personnage qui était René Barbier, quoi, en connaissant quelques-uns de ses travaux. J'essaie de ne pas être trop long.
Merci. D'autres personnes?
Interculturel, vous prenez en considération quoi au niveau d'hôpital là, et tout ça? Qu'est-ce que c'est qu'on prend en considération?
C'est différents codes, différentes références, différents langages. En fait, je vais vous donner un exemple simple, mais la première fois qu'on a mis un patient auprès d'une équipe collaborative, c'est-à-dire avec. Aujourd'hui, on a 14 professions qui apprennent ensemble. Donc. Il y a un étudiant professionnel qui parle d'un terme et le patient dit mais moi je ne comprends pas ce terme. Il se tourne vers les autres professionnels et les autres professionnels ne connaissent pas le terme non plus. Mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils sont professionnels et ils ont une posture à défendre, ce que n'a pas à faire le patient. Mais pour moi ça c'est un problème interculturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes langages. C'est un barrage quelque part. Alors, c'est pas une culture géographique. Mais c'est une géographie professionnelle en fait. Mais pour moi, il y a vraiment un rapprochement assez profond avec l'interculturalité. Et ça va loin parce que ça va vraiment dans la perspective, la vision. Quoi. Aujourd'hui, le système de santé est organisé en silo, hiérarchique au sein principalement d'un système hospitalo-centré, mais aussi disciplinaire, avec des gens qui ne se comprennent pas et n'osent pas dire qu'ils ne se comprennent pas. Et après, on s'étonne qu'il y a un problème dans la continuité des soins avec le patient. Je suis clair
J'ai entendu ça fait quelques semaines dans le département d'éthique de la Sorbonne. Là, ouais. Éthique. Et il y a eu sur le problème, il y a eu une journée sur la transfusion de sang, le devoir de sang, quelque chose comme ça. Bon. Mais finalement, ce n'était pas là le problème qu'ils ont discuté. Il y avait un médecin que je trouvais très intéressant, qu'il commençait à voir le problème, qu'il allait, pour faire une. Pour me donner du sang à un patient, selon. Il commençait, telle personne qui appartient à une religion dit que c'est ça, on ne peut pas. Donc, tout ça. Et alors, commencer à parler de toutes les influences religieuses pour supporter un traitement qu'en France, il faut le faire. Vous avez besoin d'une transfusion de sang, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors non, je ne peux pas parce que ma religion ne permet pas. Et à cause de ça, ou bien ça, parce qu'une autre chose. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé, parce que quelle est cette incompréhension? Et je dis, bon, et nous sommes un peu dans une situation, qu'est-ce qu'on fait? On impose, on n'impose pas, on respecte, on ne respecte pas. Et ça, je trouvais très intéressant, cet abordage. Et là, quand vous avez parlé, j'ai dit, mais un poil, c'est ça.
Oui.
J'avais une question sur la recherche-action pour le monde médical. Dans un contexte s'opposent, ne se comprennent pas sur ces sujets. Comment est-ce qu'on suscite la commande pour la recherche action?
Alors, vous pouvez aussi dire d'où vous parlez, à peu près qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené ici, présentation.
Moi, je suis Claudia Bonmartin. Bon, ici, je suis à cause de Bon, de Jeudi, parce qu'on fait partie, et de Florent, et parce qu'on fait partie d'un groupe qui c'est spiritualité et éducation, parce
d'accord.
que toute ma formation est l'éducation, psychopédagogie, etc.
Et
Catherine Parvit, étudiante en M2, ETLV, IED.
IED, très bien. Donc la question porte sur la recherche-action et la
façon de susciter la commande.
Alors, je vais essayer de ne pas être long, mais globalement, moi, j'ai été contacté suite à la publication de la note de synthèse qui est partie dans pratique de formation à l'analyse en 2010 à l'Université de Montréal, à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, parce qu'en fait, le doyen et un patient ont considéré que c'était l'apport scientifique qui permettait de discuter avec les médecins. Et assez rapidement, quand on a mis les premiers dispositifs pédagogiques en place et que les pédagogues, donc dans les pratiques collaboratives hein, en partenariat avec le patient, les pédagogues se sont rendus compte qu'ils faisaient ils avaient cette approche collaborative interprofessionnelle depuis 2008, donc ça c'est 2011, ils se sont rendus compte qu'on passait un plafond de verre. Donc ils nous ont proposé d'aller au ministère pour déposer un projet pour commencer à modifier les milieux de soins. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le ministère a tout pris sauf la recherche, qui était un type de recherche-action. Donc on est passé par des démarches d'amélioration continue, qui peuvent être considérées comme un dispositif de recherche-action, sauf que ce n'est pas pensé recherche, parce qu'il pensait que les milieux de soins avaient peur. Mais ça nous a permis de sortir des résultats concrets. Qu'est-ce qu'on fait quand on transforme un service de santé, un service de soins avec des patients, etc. Et donc ça nous a amené de l'argent, on a commencé à faire de la recherche-action informelle. Puis aujourd'hui, on a tellement développé notre aura. Aujourd'hui, on a une chaire canadienne sur ce qu'on fait. Donc on a monté un centre d'excellence pour diffuser au Canada nos connaissances, qu'on commence à devoir avoir quand on dépose un projet de recherche-action. On l'a. Mais au départ, la recherche, c'était mal perçu dans les milieux de soins. Quoi. Enfin, la recherche qui n'est pas de la recherche biomédicale pure. Quoi. Donc, c'est des moyens habiles. Et puis, nous, on est structuré l'unité qui a monté ça, on est structuré vraiment dans les modèles innovants actuels, parce que l'institution est très, très lourde. La faculté de médecine est dans les universités, que ce soit en France, je pense, ou au Canada, que je connais mieux aujourd'hui. Et on a vraiment monté une intraprise, un département qui est une intraprise et pas un département classique de la faculté de médecine. Ça veut dire qu'on a un noyau d'argent qui permet de mobiliser quelques personnes à la faculté. Et puis après, on va chercher des budgets qui nous permettent de lancer des actions. Et dans ces budgets, on reprend un peu d'argent de choses très opérationnelles, parce qu'en Amérique du Nord, ils sont très quand même... dans le fonctionnel, justement. Et puis nous, on a une vision plus large que ça et on réinvestit dans des recherches, on va dire, exploratoires. Après, on vient avec des résultats et puis on a les moyens derrière d'avoir des financements pour la recherche-action. J'ai répondu clairement à la question.
Alors là aussi, on voit quelque chose qui n'était pas dans le répertoire ni même dans les biographies qu'on a pu voir par rapport à René Barbier, parce que c'est la question, dans les sciences de l'éducation, la question de la santé. Ces questions de santé, historiquement, n'étaient pas tellement mises en évidence dans ce qui se passait. Il y avait ici, à Paris 8, il y avait beaucoup de choses qui ont énormément influencé, pas seulement René Barbier, mais qui étaient ce qu'on appelait le potentiel humain, hein, les approches de psychothérapie, relationnelles. Là, par exemple, il y a un livre, il y a des flyers d'un ouvrage de quelqu'un qui a enseigné ici, qui vient de sortir sur la psychothérapie relationnelle, qui est Philippe Grauer. Et il y avait la bioénergie, la digital thérapie. Notons aussi que Lewin, considéré comme un des fondateurs de la gestalt psychologie, c'est en même temps considéré comme un des pionniers de la recherche-action, etc. Donc il y avait ce courant-là qui était hyper dominant dans les années 70 en sciences de l'éducation à Paris 8. Vous voyez, c'était quasiment la moitié des enseignements, surtout sur l'influence de Georges Lapassade qui avait amené, et de Michel Lobreau. La question de la santé n'était pas spécialement la question du corps, oui, mais la question de la santé n'apparaissait pas tellement. Alors que maintenant, dans les sciences de l'éducation, il y a de plus en plus cette question de la santé qui est prédominante. Et René, de ce point de vue-là, je sais qu'il a fait une recherche action sur la fin de vie. Alors, je ne me rappelle plus avec qui, je pense que ça a donné lieu à une thèse. Des recherches actions transpersonnelles. Alors, qui est la personne? Ce n'était pas une brésilienne, je ne me rappelle plus. Bon, je n'ai pas tous les noms en tête.
Elle est à Brasilia, je crois. Ouais. Oui, je saurais me revenir.
On vous le dira cet après-midi. Ces questions-là, vous voyez, là aussi, il y a une ouverture d'un champ qui n'était pas tellement... où lui ne se sentait pas spécialement intéressé, mais il était quand même sensible parce que la question existentielle, alors que là, on voit que ces questions-là, dans les sciences de l'éducation, se développent, vous voyez, de manière importante. Autre élément sur les questions interculturelles.
Je peux avoir une explication à ça, si je peux.
Oui, vas-y.
En fait, moi je suis un malade chronique. Et en fait, aujourd'hui, un des leviers d'innovation dans la santé, c'est le savoir expérientiel des patients. Et un patient, quand il est atteint d'une maladie grave, en fait, ça touche à l'existentiel intrinsèquement. Et donc, le lien, il est peut-être là, quoi, en fait. C'est que. Il y a vraiment un bouleversement existentiel. Et aujourd'hui, dans l'état, mauvais état, je ne sais pas si vous avez vu, si vous lisez un peu les rapports qui sortent, les articles qui sortent quasiment maintenant quotidiennement sur le délabrement du système de santé, les professionnels de santé se retrouvent aussi mobilisés, pas forcément dans leur identité professionnelle, mais aussi de manière existentielle. Et donc... c'est peut-être ça qui fait que, quelque part, il y a une tentative de recherche, et par les sciences de l'éducation, de comment on peut changer les représentations et les comportements. C'est une analyse.
Oui, d'autant plus que les questions de souffrance, et plus uniquement la souffrance des patients, c'est aussi la souffrance des personnels, avec ce qu'on appelle les risques psychosociaux qui prennent une ampleur considérable, les burn-out, enfin, etc.
À propos de l'aide aux mourants dont tu parlais tout à l'heure, René a fait cette intervention auprès de personnel de l'hôpital d'Argenteuil à partir des livres d'Elisabeth Kübler-Ross en particulier.
C'est Roland Robin qui était à Paris 8, qui a travaillé à Paris 8 depuis quasiment la fondation.
Depuis 1973 à Vincennes.
D'accord. Et qui a eu plusieurs casquettes, d'avoir été à la fois dans le étudiant, dans le personnel administratif et aussi comme chargé de cours et
Audufa pendant plus de 20 ans. Un grand bonheur.
Il y a Roselyne Orofiama qui travaille au CNAM, a sorti un bouquin sur les infirmières. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'elle a fait ça et elle était assez proche de René Barbier.
Donc là, vous voyez, on trouve encore des choses qui s'emboîtent assez logiquement, quoi. Parce que quand des praticiens, des chercheurs cherchent à mettre en œuvre ce que Luigi développe sur l'expertise patient, et bien c'est vrai que logiquement, les outils, vous voyez, il n'y en a pas 36-36 à disposition. Et autrement, on est dans une approche de type soit psychanalytique, soit quelque chose qui aussi qui a eu beaucoup d'importance à Paris 8, de l'ethnopsychiatrie avec des choses comme Toby Nathan et puis le centre de jeu à Paris 8, où on croisait la question des cultures, mais avec très clairement, en se situant très clairement sur le fait que quand même il y a quelqu'un qui est dans un rôle de psy, hein, et d'autres qui sont, même si c'est en collectif, même si c'est de la thérapie familiale, systémique, etc., qui sont dans le rôle des patients. Hein. Donc, vous voyez, mais il y a une sensibilité commune sur les questions du fait de prendre en compte les questions des cultures, des univers culturels, du symbolique, etc.
Moi, j'ai une petite question. Donc, Arnaud, je suis en L2, sciences de l'éducation en présentiel ici. En fait, pour René Barbier, je voudrais savoir quand est-ce que le rapport peut-être entre les sciences de l'éducation et l'interculturel il s'est vraiment développé, et puis quelle place avait René Barbier, enfin à quel moment, quelle place avait René Barbier dans la généalogie.
Donc entre
interculturalité et sciences de l'éducation.
Ouais. Qui est-ce qui veut apporter des éléments de réponse sur ces questions-là? N'hésitez pas, c'est pas grave, on est plusieurs.
J'ai l'impression que c'était tout de suite, avec hein? Donner, c'était une question fondamentale.
Alors, Rolande.
Il était marié avec une femme de la Réunion, je crois que, d'une part, issue d'un milieu très ouvrier. C'est aussi l'interculturalité quand on fait des études supérieures qu'on enseigne à l'université. Et j'ai l'impression que c'est une dimension qui lui était, qui était très forte chez lui.
Tout à fait.
Si je peux dans le sens de Roland, oui, c'est vrai, avec la lecture très jeune, aussi très très jeune de Krishnamurti, qui l'a fait, et qui l'en est dans une autre culture, de fait, de la généalogie qu'il y a entre ce que raconte Krishnamurti et puis ce qu'on peut trouver éventuellement le bouddhisme ou la culture extra-orientale en général. Hein, là, il y a vraiment des ponts à tendre. Je crois que c'était constitutif au personnage, oui, tu as raison. Hein. Tout à fait. Alors, quand c'est arrivé précisément en sciences de l'éducation, ça, j'aurais du mal à dater précisément. Bon, à mon avis, dès les années 80, ça devait être quand même installé. Peut-être pas aussi bien formalisé sur le plan théorique que ce sera par la suite, mais ça devait déjà être présent. Oui.
Au sujet, est-ce qu'il y a eu des liens entre René Barbier et Demorgon sur l'interculturalité, justement?
Oui, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Je pense qu'il y en a eu. Je pense que René avait lu le Mormon. L'inverse, je sais pas. Quant à des rapports plus étroits, ça, j'ai pas la réponse.
Alors, là, par rapport à la question que pose Philippe Lenis, là, juste quelques mots, tu t'occupes de l'association de parents d'élèves, entre autres, un militant.
De l'université populaire de ça.
Et de l'Université populaire des Ardennes, de Charleville-Mézières. Jacques de Morgon, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le langage. Alors, il y a peut-être eu une rencontre, mais ça ne s'est pas fait. C'est aussi où René a beaucoup travaillé, ainsi que Rémy Hesse, Lucette Collin, et puis bien d'autres, La Passade, enfin, c'est l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Et Jacques de Morgon a travaillé aussi avec l'OFAGE. Il y a eu des relations là, vous voyez, où consubstantiellement, il y avait des contrats de recherche avec des groupes franco-allemands. Et ça a commencé dès la fondation de Paris 8, vous voyez, ces questions-là. Il y a eu des stages très connus qui se sont terminés de manière très rocambolesque dans les années 70, le stage du Meux notamment, avec La Passade, etc., qui sont racontés. Et René Barbier travaillait aussi dans le cadre de l'OFAGE, comme Rémy, Lucette Collin et d'autres. Ils étaient très copains avec celui qui était un des patrons de la recherche, enfin je dis patron, un des animateurs, des responsables de l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui est Ewald Braas, qui coordonnait tout ce qui était recherche-action franco-allemande. Et voilà. Donc là-dessus, on peut trouver cette dimension interculturelle, mais là, on est quand même dans une dimension interculturelle qui est très intra-européenne. Ouais. Alors que René Barbier, très clairement, veut sortir du cadre, hein, avec, on l'a dit, les approches de Krishnamurti, mais pas seulement.
La Chine.
Alors, vas-y, parle-en.
Mais non, je sais tout ce que... Il y a eu un symposium sur la Chine ici, en 2008.
Ouais.
Il y a eu des personnalités. Il y avait des étudiantes chinoises. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui lui a mis un nom, et le Tibet. Et donc, il a fait un cours sur un Rinpoche.
À ce propos-là, il y a des numéros de pratiques de formation là sur les regards autres, et notamment sur la Chine, hein, qui correspond à ce colloque. Hein. C'est une convention avec l'université de Pékin. Il y a eu des doctorantes et des doctorants chinois qui ont soutenu des thèses. Donc ça a été vraiment un de ces axes. Et puis également la Corée... avec Sun Mi Kim. Enfin, vous voyez, on trouve cette dimension-là. Il y a eu plusieurs thèses. Boniface Knessant, qui intervenait au DUFA, a fait également sa thèse sur ces questions interculturelles. Est-ce que d'autres veulent témoigner de ça? Parce que c'est intéressant d'avoir un tour de table.
Moi, j'ai une question. Et de l'interculturalité, quel rapport à l'Afrique?
À l'Afrique.
Alors, si je n'ai pas lu tellement d'ouvrages de René Barbier, mais quelques-uns, j'ai vu qu'il parlait pratiquement pas de l'Afrique. Quelle place avait l'Afrique dans sa multi-référentialité?
Qui est-ce qui peut dire? Oui.
Un jour, lui, Andrea, je viens de terminer un master 2. Et concernant la cosmovision des Amérindiens, et parmi ma trajectoire de ce master 2, j'ai eu l'opportunité de connaître René Barbier. Et donc, il m'a invité chez lui. Et on a eu l'opportunité de parler. Il m'a dit, parmi les cultures que lui parlait, il parlait du monde africain et aussi les Indiens qui appartiennent en Colombie. En Colombie, il y a un gros pourcentage des Africains. Et donc, il n'a pas peut-être écrit sur l'Afrique, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps de développer parce que lui, il avait plein de choses à faire. Et donc, peut-être il approfondit sur l'Inde plus profondément. Parmi ça, la Chine. Mais il m'a parlé beaucoup de l'Afrique et de ces mondes, des autres cultures, comme les Amérindiens, par exemple. Aussi. Donc il avait aussi dans son plan.
Alors, pardon, c'est vrai que j'ai oublié de dire d'où je parlais. Donc, Aziz Moutaïboul, ancien du DUFA, hein, la promotion Art-Pensée de 2014.
Et toi, quand tu étais au DUFA, tu devais être déjà sensible à ce type de questions. Est-ce que c'était présent? Je te retourne la question.
Forcément. Parce que c'est vrai que quand on lit les textes de René Barbier, on peut difficilement ne pas faire le lien avec le monde africain, dont on sait, jusqu'à preuve du contraire, qu'il est... le lieu de départ, hein, de l'humanité. Si on est d'accord pour dire que l'Afrique elle berce l'humanité, ça veut dire que forcément il y a une forme de spiritualité, il y a une culture, même si elle a été niée pendant longtemps, et qu'on a pu dire que l'Afrique, c'était quoi, terra vacua. Hein, terra vacua, qui n'a pas d'histoire, pas de culture, etc. Et qu'est-ce qui était le lendemain des Antilles, tout au long du siècle passé, jusqu'à aujourd'hui, et on a beaucoup de chercheurs en sciences de l'éducation en cours qui ont travaillé sur les cultures africaines. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de connaître les articles suffisamment longtemps pour connaître, avoir son avis sur le lien entre tout ce qu'il a été. Tout ce qu'il a pu mettre en évidence dans le cadre de la spiritualité d'Asie, et puis cette fois-ci.
Alors, Guy a des éléments de...
Non, je ne sais pas si je vais répondre. Il faut, mais il y a un élément important même dans notre questionnement. Dans l'attitude existentielle, qui est celle de René Barbier, il ne faut pas oublier que l'existentiel renvoie aussi à la notion d'expérientiel. Or, et René, systématiquement, quand il rencontre quelque chose, il y va. Il va aller en Asie, il est allé en Amérique latine, de l'Afrique, il ne connaît que la zone océano-indienne, c'est-à-dire à la fois l'île de la Réunion, mais un peu Maurice, hein, il ne va pas au-delà. Et donc, ce qui l'y intéresse le plus, c'est moins le problème de l'Afrique qu'aussi le problème, au fond, du rapport, au fond, d'une société esclavagiste, hein, qui se constitue ensuite comme démocratie, et par conséquent, et il n'a jamais été en Afrique. Et donc, il n'en parle pas. Hein, et il n'en parle pas, en fait, une fois, dans une cohérence, hein, qui est la cohérence, au fond, d'une position d'expérience.
Hein. Et qu'une position épistémologique.
Épistémologique. Hein, pas du tout par indifférence, hein. Mais pas par cohérence épistémologique. Maintenant, je crois qu'il y a, il y a peut-être deux, trois choses à dire, y compris sur l'ophage, mais y compris sur son rapport à l'Asie. Bon, j'ai envie de commencer par un texte que j'aime beaucoup de Linton, hein, qui est un anthropologue américain, qui dit, voilà, un soir, un riche fermier américain s'installe devant ses champs dont il a chassé les Indiens, hein, pour pouvoir les exploiter. Le soir, il est fatigué et sa nourrice noire, arrière-petite fille d'esclave, lui amène un cigare, hein, pour se reposer. Il fume ce cigare qui correspond à un usage de l'Amérique latine, mais avec un tabac qui lui vient du Mexique. Heureux au fond de ce cigare dont il s'est régalé, il fait une prière à un dieu qui vient du Moyen-Orient, et il est très fier d'être un pur citoyen américain. Ça, c'est la multiréférentialité. Ça, c'est la multiculturalité, qui est un kaléidoscope représentant la mondialisation, hein, fait de massacres, fait de douleurs, fait d'ignorance, et qui n'implique aucune curiosité pour la culture de l'autre. Et nous sommes tous en situation multiculturelle, ce qui ne veut absolument pas dire, au fond, que cette multiculturalité nous interroge. Alors, par rapport à ça, l'interdisciplinarité, c'est presque le contraire, hein, de la multiculturalité. Hein, c'est une façon, finalement, de se laisser interroger par la culture de l'autre. Mais là encore, c'est un peu compliqué, parce que je me souviens d'embelade avec des camarades, avec des collègues québécois, qui étaient au fond très fiers d'être de plus en plus interculturels, mais qui ne voyaient pas que l'interculturel il pouvait être tragique pour ceux qui étaient venus par émigration, par la voie, historiquement, la médiation de la colonisation ou par la pauvreté, mais qu'il était vécu par les gens qui les accueillent comme un enrichissement, hein, et comme un plus. Et alors, c'est là que l'expérience de l'ophage est tout à fait intéressante. Un des résultats les plus intéressants des stages de l'ophage, c'est de montrer, au fond, que quand on mettait ensemble des jeunes Français et des jeunes Allemands, ce qui se passait de plus important, c'était la prise de conscience par ces jeunes Français de ce qui les liait entre eux, et la prise de conscience par les jeunes Allemands du fait de la présence de l'autre, de ce qui les liait. Et par exemple, un phénomène qui a souvent été constaté, dans un groupe de jeunes Français, il pouvait y avoir justement des immigrés d'origine maghrébine ou africaine, et arrivés au stade chauffage, ils devenaient Français, puisqu'ils étaient vécus au fond comme enfants de France, par les jeunes Allemands. Autrement dit, ce n'était pas tellement la communication entre deux cultures qui compte, mais la façon au fond dans le fait de penser aussi l'autre culture me fait penser autrement ma propre culture. Et alors, c'est tout à fait intéressant, parce que moi je crois qu'il y a un lien entre la façon dont René travaille, en particulier sur l'Asie, qui est très proche d'un auteur contemporain que je crois René ne lit pas, en tout cas ce n'est pas des auteurs, c'est un des miens, qui s'appelle François Julien, et qui parle du rapport à l'autre culture comme un écart. Penser l'autre culture, c'est regarder la mienne d'un peu loin, et donc la comprendre de manière tout à fait différente. Et ce qui est intéressant, au fond, dans l'appel que fait, dans le travail que fait René sur Krishnamurti ou sur l'Asie, c'est pas tellement qu'il devient un sinologue ou un spécialiste de l'Asie, il devient quelqu'un qui est capable de repenser la conception française de l'éducation parce qu'il est passé par le regard de Krishnamurti. Et ça, je crois que c'est tout à fait dit important, au fond, pour définir même quelle est la porte de l'interculturel, qu'on mélange quelquefois au multiculturel. La porte d'interculturel, au fond, c'est de créer un écart par rapport à nos habitudes et nos manières d'être qui nous permet de les penser autrement et par conséquent, finalement, d'approfondir le rapport même qu'on a à sa propre culture. Et je dis, ça a été une des résultantes la plus intéressante de beaucoup de stages de chauffage. C'est là que René le découvre, et ça va être sa façon très souvent de penser la culture de l'autre.
Alors là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à Paris 8, c'est perçu comme l'université monde, que dans la fondation de Paris 8, là, on a parlé de la FIRS, donc on a vu que Patrick Boumard, Fred, son co-président, Guy était un ancien président, Mialaret, etc. Il y a un lien avec le monde, via. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'UNESCO. Un des fondateurs ici, c'est Michel de Beauvais, spécialiste de l'éducation comparée. Donc cette question-là, elle est très présente dès le départ dans la dimension culturelle collective. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Paris 8, elle va l'être de moins en moins.
Et ajouter un mot encore, puis je vais essayer de me taire. Notre point de départ, ça a été dit qu'on allait partir de la multiréférentialité. Et je crois que c'est tout à fait intéressant parce que ça éclaire, je dirais, certains aspects de l'interculturalité. Au moment où Arduano lance ce terme, ce qui est à la mode, c'est l'idée, au fond, de la pluridisciplinarité. Mais dans l'idée de pluridisciplinarité, c'est-à-dire du fait de mobiliser la sociologie, la psychologie, la biologie, au fond, pour étudier un phénomène, il y a un vieux rêve rationaliste et intellectuel qui est celui du savoir total. C'est que si on pouvait mobiliser toutes les disciplines pour rencontrer un objet, un peu comme si je prends une craie que j'y verse l'acide pour voir que c'est une base. Si je la casse pour voir comment ça devient en poudre, que je la pèse, que je la mesure, etc., et que j'analyse comment elle a été produite, j'aurai un savoir total de ce morceau de craie. La notion de multiréférentialité, elle n'est beaucoup plus de la pratique que d'une analyse, au fond, que d'une recherche de connaissances. Et dans la pratique, ce que je découvre, c'est que le même phénomène n'est pas le même vu par l'un ou par l'autre. le premier modèle du multiréférentiel, eh bien, une classe, l'enseignant, l'élève, les parents d'élèves et l'État qui finance l'école n'ont pas les mêmes référents. C'est pas la même classe que celle que vit l'élève et celle que croit, vive l'enseignant et celle qu'espère, que vivent les parents. Et donc la multiréférentialité, elle est non pas du, elle est le contraire. Et puis c'est vrai aussi en termes de méthodologie. Le même phénomène, si je le vis, mettons, une rencontre interculturelle, si je l'analyse synchroniquement, c'est-à-dire en analysant qu'est-ce qui se passe quand des gens de cultures différentes sont ensemble, j'en fais un phénomène heureux et positif. Si je l'analyse diachroniquement, à travers le temps qui y conduit, c'est une histoire tragique, celle des guerres, de la colonisation, de la misère, de l'émigration. Et donc, j'ai jamais un système de référent qui est unique. Et le multiréférentiel, c'est le deuil de la connaissance totale. C'est l'idée, au fond, que chaque fois que je prends une référence, je ne peux pas entrer dans l'autre référence. Et c'est ce travail, en quelque sorte, de l'ouverture à la fois à l'autre et du deuil du total qui est au cours. Et c'est de nouveau ceci qui est important au niveau de l'interculturel. L'interculturel, ce n'est pas simplement l'idée d'une totalisation qui va créer une sorte de culture mondiale uniforme, qui est encore une fois un phénomène sociologique et historique de nos sociétés. C'est aussi une façon de découvrir la fermeture des cultures. C'est pas seulement du positif, c'est aussi du tragique. C'est aussi, en fait, l'impossibilité d'être en même temps ceci et cela. Et je crois que c'est tout à fait important. Donc, il y a bien un rapport entre là. Et encore une fois, je reviens à la façon dont René travaille en particulier sur la vie. Il travaille sur la vie dans un travail de critique de la pensée européenne. Et c'est cet aspect de valeur critique du travail sur un outil ou sur la vie, qui est extrêmement important et qui n'est pas du tout une espèce de fusionnisme que quelquefois on risque de lui attribuer.
Par rapport à ta question, c'est Aziz. Hein. Ouais. La question d'Aziz, dans le numéro que René a coordonné, Éducation et sagesse, la quête du sens, dans ce numéro-là, on trouve deux articles de Louis Durand Nouman Manmi sur l'homme accompli dans la société traditionnelle du Burundi, Éducation et sagesse africaine avec Boniface Naissant, et les questions sagesse orientale, c'est un article. Ouais. Donc pour lui, ça montre, et à côté, on trouve des contributions d'Edgar Morin qui sont importantes par rapport à au domaine, à la. Disons, à l'héritage chrétien, Bernard Béret, qui est, à un moment a été, il était même prévu pour être cardinal, après il a été défroqué, c'est une autre paire de manches, mais on trouve, disons, donc c'est quand même pour lui, quand on regarde, disons, une dizaine de contributions, on trouve quand même cet intérêt-là. Alors là, je pense qu'avant qu'on clôt et qu'on aille manger, ce serait important d'aller sur une dimension qui est la dimension du mytho-poétique. Hein, parce que cette dimension-là, chez René Barbier, c'est absolument essentiel. Et j'aimerais bien que Odile d'abord, et puis peut-être Frédéric qui a écrit aussi un ouvrage sur la question des approches et du mythe en éducation, nous dise un peu comment voit la pensée de René Barbier dans cet ensemble. Odile.
Je voulais rappeler que l'approche transversale de les écrits de René, c'était pas que la science, c'était aussi les arts, en particulier la poésie, la philosophie, je ne sais pas si on peut la philosophisation, bon, et puis la politique. C'est-à-dire, c'était pas que scientifique, quoi. C'était beaucoup plus large.
Oui, parce que là, on n'a pas parlé du René Barbier politique, mais une de ses inspirations majeures de l'approche transversale, c'est quand même Castoriadis. Et Castoriadis, issu de socialisme et barbarie, ça se situe quand même dans ce... Frédéric ?
Oui. Alors, moi, j'ai rencontré René à trois reprises. Ça doit être ça, peut-être quatre. mais en tous les cas trois assurément. La première fois, c'était lors d'un colloque de la FIRS à Lisbonne. Et donc, j'avais la parole pour une table ronde et René faisait la conférence plénière derrière. Et on ne s'était jamais parlé auparavant. Il a ouvert sa conférence en disant que finalement, il n'avait pas grand-chose à dire de plus que ce que j'avais dit, mais juste, il allait le dire autrement. J'avais trouvé ça tout à fait sympathique de sa part. Et du coup, on a poursuivi la conversation après nos prises de parole respectives. Et peut-être ce qui nous rassemblait, en tous les cas, lors de cette conversation-là, c'était notre rapport à l'inconnu. Et donc des questions épistémologiques, c'est-à-dire que le boulot d'un chercheur... Alors j'ai bien entendu le dialogue praticien-chercheur, sauf que, en ce qui me concerne, en tous les cas, la recherche est une pratique. C'est en ça que, du coup, elle m'intéresse. Si c'est juste tenir des discours savants sur des choses, c'est pas très palpitant. Donc, on était en phase là-dessus, sur le fait que le boulot du chercheur, c'est d'essayer de s'ouvrir autant qu'il peut, en sachant qu'il ne le pourra jamais tout à fait, à ce qui va venir faire dérangement. Je vais reprendre le mot de Guy, qui disait que René l'avait dérangé. Dans le sens positif du terme, et moi je pense que c'est ça le travail d'un chercheur, c'est de ne jamais refuser ce qui va venir le déranger, et déranger, c'est-à-dire qui va venir bousculer son rangement conceptuel, son rangement théorique, qu'il a mis des années et des années à construire, et donc d'accepter que quand quelque chose vient bousculer tout ça, c'est heureux pour un chercheur. Et c'est peut-être, mytho-poétique, c'est la dimension sensible du chercheur. Donc on va retrouver les questions existentielles, expérientielles, etc. C'est quand le chercheur accepte que sa sensibilité soit bousculée, heurtée, touchée, qu'il trouve là la chance de pouvoir penser autrement ce qu'il avait pensé jusque-là de telle ou telle manière. Et donc, c'est cette capacité d'ouverture qui suppose de reconnaître qu'on ne sait pas. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de non encore connus, et pour une part, à jamais connaissables. Et c'est vrai que dans ce moment-là, à la FIRS, finalement, ce qui nous a rassemblés, c'est la force qu'on accordait l'un et l'autre au non-savoir, au pas encore connu, et à la possibilité aussi de se débarrasser du déjà connu, quand on veut faire son travail de chercheur. Donc finalement, des enjeux épistémologiques, comment on fait pour construire de la connaissance nouvelle quand on est chercheur. Et René dit la sensibilité poétique, et d'autres choses, mais en particulier ça, et à quoi je dis une capacité à sentir, à vivre, à penser avec le mythe, et avec les figures mythiques qui viennent sensiblement nous rencontrer. On ne les choisit pas, ça nous tombe dessus, ça vient nous parler. Et qu'est-ce qu'on est capable d'en faire ? De la transformation de la pensée et de l'agir et de la pratique. La deuxième fois, alors du coup on a eu cette rencontre initiale-là, celle d'après, il m'a sollicité pour un jury de thèse, d'une thèse qui était présentée par une étudiante chinoise. Donc on va retomber sur la question de l'interculturalité. Et très sincèrement, à l'époque, alors, j'étais lectrice de Varela, du bouddhisme, enfin, du Varela bouddhiste, mais je n'étais pas forcément extrêmement sensible à la culture orientale. C'est peut-être grâce à René que c'est venu derrière. Et je crois que ce qui fait qu'il m'a sollicité pour ce jury de thèse, c'est peut-être sur cette sensibilité à l'ouvert, et puis au fait que, oui, la thèse n'était pas tout à fait écrite en français. D'accord. Syntaxiquement, c'était pas exactement correct, et qu'il savait que je m'en foutais un peu. J'étais capable de m'en foutre de ça, et d'essayer de rentrer dans la logique de la doctorante qui essayait de comprendre son rapport à sa propre tradition, qui était en train de foutre le camp en Chine, et comment on pouvait essayer de repenser l'éducation en Chine, non pas en singeant l'Occident, mais en essayant quand même de ne pas perdre complètement cette tradition et sans être aliéné à la tradition. C'était un peu ça l'histoire de cette thèse. Et puis, la troisième moment, Il a suggéré à une étudiante qu'il connaissait, qui avait fait un master en sciences du langage, qui est russe, qui pratique le yoga depuis sa tendre enfance, de me solliciter pour que je dirige sa thèse en sciences de l'éducation. Donc, elle est en train de terminer. Enfin, j'espère que cette thèse va se terminer. Alors ça, c'est Jean-Louis qui me l'a dit, donc je vais le dire. On a un séminaire commun, donc ça en fait partie, là, aujourd'hui, entre Paris et Pau. Et puisque Marina présentait son travail de thèse lors d'un séminaire, je dis, ben, faut que René vienne, quand même. C'est lui qui est à l'origine de cette thèse. Enfin, voilà, il faut qu'il vienne à notre séminaire. Et puis, du coup... qui nous fasse une petite conf, et puis qu'on profite, quoi, puisqu'il a fait du go-between, qu'on en profite, quoi, un peu malignement. Et il semblerait qu'il avait décidé qu'il ne remettrait plus jamais les pieds à Paris 8, et que, grâce à Marina, peut-être un peu grâce à Jean-Louis, il est venu, et donc on a eu la chance de passer une journée entière avec lui, il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et de se retrouver à ce moment-là, alors pour le coup branché sur les travaux de Beatball, de Michel Beatball, qui venait de sortir sa grosse somme là, pour une science et une épistémologie de la relation, et qui est lui-même manifestement spécialiste de Varela, des approches orientales. On avait l'un et l'autre plus bouquin, et on a échangé pas mal sur ce bouquin lors de ce séminaire-là. Ça semble peut-être pas être de l'épistémologie ce que je vous raconte, mais pour moi, c'en est fondamentalement. C'est-à-dire que ce qui nous gêne le plus pour avancer et connaître les choses différemment, c'est qu'on est embarrassé de ce qu'on connaît et qu'on n'en aura jamais fini de se débarrasser autant qu'on peut de ces oripeaux-là. Alors, on a parlé de Julien tout à l'heure. Je m'en sors mieux, en tous les cas, je me sens plus en phase avec Jean-François Bitter. Donc, j'ai parlé de Varela, j'ai envie de vous parler de Bitter, qui a écrit un contre François Julien. Donc, ça donne la tonalité du contexte. Et qui, entre autres, alors qui est beaucoup, beaucoup sur cette question de l'expérience, hein, et une approche phénoménologique et sensible de l'expérience qui nous permet de penser autrement. Parle d'une pédagogie de la régression, et qu'en fait, qui me semble vraiment importante aussi, c'est-à-dire que comment on fait pour essayer de ne pas savoir ce qu'on sait, parce que ce qu'on sait nous empêche d'entendre ce que l'autre est en train de dire du fond de son expérience à lui. Je crois que cette dimension de transversalité, elle suppose aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut, pour accueillir ce qui vient nous bousculer, ce qui vient nous traverser, si on entend transversalité dans ce qui vient nous traverser, il faut ouvrir nos propres crans d'arrêt, et nos propres crans d'arrêt sont dans notre savoir. Voilà, on m'arrête là.
Oui, vous voyez justement à la suite, j'étais présent la journée où...
Faut que tu dises qui tu es, je crois.
Olivier Godin, je suis doctorant sur les directions de l'EPFAD. Je m'intéresse à la question de savoir comment le numérique bouscule, justement dérange la forme scolaire. Je suis enseignant aussi. Donc j'étais présent à cette journée et ça m'a particulièrement marqué. Je me souviens qu'il y avait Annie Taggio qui présentait cette journée-là, qui s'intéressait à la spiritualité sur l'éducation. Et ce qu'il avait dit, je me souviens, c'est qu'il avait dit un concept, ça doit être vivant. Il y a une personnalisation, elle connaît Jean Brass, Jean Brasset. Il doit y avoir du corps, un concept vivant, ça l'a marqué. Il a présenté aussi un article sur l'imaginaire, l'imaginaire symbolique et le réel. Et avec ça, moi, ça m'aide, moi, l'approche mythologique, m'aide à traverser ces différentes références. Je m'intéresse au couple. Héphaïstos Athéna, pour parler de la technique justement qui va bousculer la forme scolaire. Et à chaque fois, quand j'ai une approche plutôt psychanalytique, je ne suis en train de traverser comme ça, je sais que j'ai cette référence-là et que je n'ai pas les autres. Mais par contre, elles sont derrière. Puis après, je vais avoir une approche anthropologique, je vais avoir une approche et d'avoir cette approche mythologique de l'imaginaire, justement, ça m'aide à traverser
toutes ces références.
Et à les réouvrir, parce que l'imaginaire réouvre systématiquement. Ouais. Il est assignable à aucune interprétation définitive.
Oui. C'est que juste par rapport à ce que tu as dit, un concept, ça doit être vivant. Quand tu renais depuis les 20 dernières années, il y avait même une tendance à refuser l'idée même du concept,
oui,
s'il en produisait quand même. Ah, et ça, c'est très lié au mytho poétique, plutôt au poétique qu'au mytho d'ailleurs, chez lui. Et c'est très influencé, ça, par la culture de la Chine, etc., où effectivement, on ne pense pas en concept. On pense autrement, comme chez Montaigne, c'est un philosophe, mais Montaigne étant l'inverse de Guattari et Deleuze, pour qui faire de la philosophie, c'est pondre des concepts. Et ben non, on peut faire de la philosophie autrement, comme ça se faisait dans la Chine ancienne, dans les sagesses antiques aussi, hein, même du côté grec. Et il y avait cette idée de la Chironée, c'est-à-dire qu'on pouvait produire de la pensée d'une façon autre, en convainquant à la fois des références universitaires, mais aussi de la peinture, mais aussi de la musique, pour oublier la musique, l'importance de la musique que ça avait chez lui, mais bien sûr de la poésie, bien sûr de la littérature, bien sûr du cinéma, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment, à son avis, forger une pensée d'une autre façon que l'université nous apprend à la produire d'habitude.
Oui. Il mettait un... Excusez-moi. Si je peux juste ajouter... Parce qu'il mettait en cause la pensée dialectique aristotélique par le dépassement de la dualité. Et là, clairement, on déborde dans les discours sur la spiritualité. Mais avant d'y aller... C'est juste ce passage qui est important, vraiment le dépassement de toute dualité et la recherche de l'unité. Même par les tiers inclus, qui était un de ces sujets, des éléments de dépassement de la dualité et de la conflictualité. Excusez-moi.
Je voulais juste rebondir sur ces questions, en fait, comment introduire de la poétique. Et je pense que par rapport au Dufort, parce que moi je suis issue du Dufort, de la manière dont j'ai découvert l'université et intégré l'université, c'était par ce but-là, et parce que ce qu'on nous demandait de produire de manière institutionnelle, c'était à mémoire, mais il n'était pas normal ce mémoire. Et à l'intérieur, on pouvait y mettre ce qu'on voulait, et notamment de la poésie. Et ouf, enfin, on pouvait exprimer quelque chose de manière artistique et pas forcément petit 1, petit 2, et que dans du formel. Il y avait cette chose complètement informelle, et moi qui m'a permis vraiment d'intégrer le savoir par l'université, parce que j'étais vraiment issue d'une autre branche. Enfin, la technique, le BTS, le savoir pour moi, ça s'arrêtait à la technique. Voilà, l'université, c'est pas pour moi. Et grâce à ce mémoire qui était vraiment institutionnalisant, c'était vraiment l'outil ultime à la fin du DUFA. Enfin, il faut quand même produire quelque chose. Et on pouvait y mettre de l'art. Et là, oui, il y avait vraiment. Je pense que c'était un vrai résultat du fait de sa pensée.
Je suis embarrassé parce que si on veut manger, il n'y a qu'une cafétéria. Vous voyez, le restaurant universitaire ne fonctionne pas. Je vous propose qu'on arrête... là, et puis de toute façon, on va continuer cet après-midi sur les questions écologie, formation, spiritualité, voilà. S'il y a des personnes qui doivent nous quitter là et qui ne reviennent pas cet après-midi, si elles veulent bien laisser leur nom, leur mail, hein, voilà, et on fera passer, on continuera la feuille cet après-midi pour ceux qui sont là. Frédéric, tu...
Je suis là en début d'après-midi, jusqu'à 3h.
Ouais. Alors, on me demande si la salle va être...